Bonjour Christophe Prudhomme.
Bonjour.
Les personnels soignants étaient en grève hier pour protester contre les difficultés de leurs conditions de travail. Demain, ce sera le tour des enseignants. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dit hier qu'on ne faisait pas une grève contre un virus. Est-ce que les personnels soignants ont fait grève contre un virus ?
Non, ni les personnels soignants, ni les personnels soignants. Vous savez,
l'éducation... Ni les enseignants, vous voulez dire ?
Les enseignants, pardon, excusez-moi. L'éducation et la santé sont les deux grands services publics qui sont attaqués dans les pays riches et développés, qui étaient des services publics. Et qui aujourd'hui glisse vers une privatisation. Et petit à petit, on a réduit les moyens des services publics, en particulier les services publics du service public hospitalier en France. 100 000 lits fermés, des contraintes financières permanentes qui font que aujourd'hui, ce n'est pas le l'épidémie de la Covid a été le révélateur de l'état de dégradation de l'hôpital. Si l'hôpital est en difficulté, c'est pas à cause de l'épidémie. C'est à cause, effectivement, de 30 ans de politique de réduction de moyens.
Vous parlez des lits fermés. Le gouvernement est régulièrement accusé d'avoir fermé des lits pendant même la crise sanitaire, hein, depuis 2020. D'ailleurs, les chiffres en témoignent. Mais le gouvernement explique que la plupart de ces fermetures ne relèvent pas de décisions, de choix stratégiques, de choix politiques, mais du fait qu'il y a un problème de personnel dans les établissements. Est-ce que c'est ce que vous constatez ?
Non, le gouvernement ment. Puisque ces outils de régulation du système, que sont les agences régionales de santé, quand elles décident d'une restructuration d'un hôpital, obligent à des réductions de lits. Pour une raison très simple, c'est que idéologiquement, ils défendent ce qu'on appelle la médecine ambulatoire. La médecine ambulatoire, c'est un programme, particulièrement en chirurgie, mais pour une toute petite partie des patients. Nous sommes dans des pays vieillissants, et l'essentiel de nos malades aujourd'hui sont des patients de plus de 50 ans, atteints de plusieurs maladies chroniques, et quand ils ont besoin d'être hospitalisés, on peut pas les prendre en charge en ambulatoire et les renvoyer chez eux pour dormir la nuit. Ils ont besoin d'un lit parce qu'ils sont gravement atteints, ils sont dépendants, ils peuvent pas se lever, et donc cette logique du tout ambulatoire est une escroquerie intellectuelle.
Quand vous dites que ce n'est pas le Covid aujourd'hui qui est responsable des difficultés de l'hôpital, est-ce qu'on peut quantifier ce que représente aujourd'hui cette crise sanitaire dans vos difficultés ?
La quantifier en pourcentage, c'est difficile, mais je peux vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 20 000 patients globalement hospitalisés pour la Covid. 20 000 patients dans un pays de 67 millions d'habitants, ça devrait être gérable.
Il y a combien de lits d'hôpitaux en France au total ?
On a un peu plus de 300 000 lits d'hôpitaux. 350
dans les hôpitaux du service public, tout confondu, établissements privés également.
Et le problème aujourd'hui, c'est que la charge a reposé essentiellement sur l'hôpital. Pour des raisons très simples, c'est que la médecine de ville aujourd'hui est en grande souffrance. Le nombre de médecins généralistes diminue et va continuer à diminuer jusqu'en 2030. Et le secteur d'hospitalisation privée à but lucratif s'est concentré sur un certain nombre d'activités, avec peu de lits de réanimation. Peu de lits d'hospitalisation de médecine, ils font beaucoup de chirurgie ambulatoire, de dialyse, de chimiothérapie pour le cancer, et ils n'ont pas été capables d'absorber un nombre de malades équivalent à leur poids dans le système. 30% de lits dans le secteur privé lucratif, ils n'ont pris en charge que 15% des patients. Alors je leur jette pas la pierre, ils ne sont pas structurés pour. Mais de fait, tout a reposé sur l'hôpital public, qui était déjà dans une situation de tension, de fonctionnement à flux tendu. C'est la logique qui nous a été imposée depuis 20 ans. La logique à l'œuvre dans ce monde libéral qui s'est installé depuis plusieurs décennies. C'est le fonctionnement à flux tendu. L'hôpital doit fonctionner comme une entreprise à flux tendu. Et donc, ça veut dire quoi ? Il n'y a jamais aucun lit disponible. Or, toutes les études montrent que nous ne pouvons pas prévoir l'activité d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre à l'hôpital. Si nous n'avons pas en permanence 20% de lits disponibles, l'hôpital dysfonctionne. Et ce terme de dysfonctionnement, il se traduit par une surmortalité à pathologie équivalente. C'est ça la gravité. Quand un patient reste sur un brancard en attendant un lit d'hospitalisation, quand il reste dans un service d'urgence en attendant un transfert en réanimation, c'est ce qu'on appelle pudiquement une perte de chance, mais une perte de chance, c'est une mortalité évitable. C'est ça qui, aujourd'hui, psychologiquement, est difficilement supportable pour les soignants.
Des gens qui passent de très longues heures sur des brancards, c'est ce que vous vivez, c'est votre quotidien, vous, à l'hôpital de Bobigny ?
C'est le quotidien,
vous savez... Déjà avant le Covid ?
Bien sûr, vous savez, depuis 2003, c'est là, vous vous rappelez, la canicule. Depuis 2003, nous, les médecins urgentistes... dénonçons chaque année le manque de lits de réanimation. Tous les week-ends, toutes les vacances, tous les jours fériés, C'est pas d'aujourd'hui qu'on manque de lits de réanimation. Quasiment toute l'année, on passe notre temps au téléphone, on passe souvent plus de temps au téléphone à chercher un lit qu'à s'occuper du patient ou à aller voir leur famille pour leur expliquer. Et c'est un grand reproche des familles, on n'a pas le temps d'aller discuter avec eux. Voilà, donc, et il faut savoir aujourd'hui que ce qui est grave, c'est que rien n'a été fait. Vous savez, hier, nous étions dans la rue de nouveau, les personnels soignants. Depuis 2019, quand le gouvernement dit il faut du temps pour former du personnel, pour former une aide-soignante, il faut un an. Pour former une infirmière, il faut 3 ans, 2019-2022. Si on avait mis en place le plan massif de formation que nous réclamions déjà en 2019, les premières infirmières sortiraient dans les mois qui viennent. Et une des solutions pour former du personnel, c'est ce qu'on appelle les contrats d'études, c'est-à-dire que les étudiants soient payés au SMIC pendant leurs études et déjà préaffectés sur un établissement, sur un territoire, ce qui est, ça s'appelle une politique prévisionnelle des emplois, et ça permet pour les personnels en poste d'avoir l'espoir de voir arriver des collègues et que les conditions de travail vont s'améliorer.
Le débat c'est, sur cette crise sanitaire s'est beaucoup cristallisé depuis quelques semaines maintenant, voire quelques mois, autour de la question de la vaccination et en particulier autour de la responsabilité qu'ont les non-vaccinés dans cette épidémie. Est-ce que vous, vous éprouvez, quel est l'état d'esprit de vos collègues, peut-être aussi votre collègue médecin, vos collègues soignants, est-ce que vous avez de la colère, par exemple, contre les non-vaccinés? Est-ce que les propos du président de la République, pour vous, sonnaient juste sur le fond, étaient peut-être un peu violents sur la forme? Quel est votre état d'esprit par rapport à tout ça?
Écoutez, nous regrettons qu'un certain nombre de patients ne soient pas vaccinés, en particulier ceux qui ont des facteurs de risque. C'est surtout cela, qu'un jeune ne soit pas vacciné. Vous voyez, bon, c'est moins grave qu'une personne obèse de 55 ans, hein, dont on sait que si effectivement il est infecté, il risque de terminer en réanimation. Vous savez, nous, ce qui nous caractérise, les soignants, c'est la bienveillance. On est là pour soulager les souffrances. On n'est pas là pour juger. Vous voyez, moi, je suis urgentiste. Quand un patient est pris en charge, que ça soit au SAMU ou aux urgences, je lui demande pas s'il a sa carte vitale, sa carte bleue sur lui. Je le soigne. Donc, les propos du président sont contre-productifs parce que on s'attaque pas au vrai problème. Il y a quelques anti-vax, oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les non-vaccinés aujourd'hui se concentrent dans deux catégories. Une partie des plus âgés, isolés, qui n'ont plus de médecin traitant, et en particulier les populations les plus pauvres. Hein, voilà. Donc, il faut aller vers ces gens-là avec des médiateurs, il faut des médecins, des infirmières qui aillent au domicile des personnes âgées pour qu'on gagne ces quelques pourcents qui nous manquent aujourd'hui. Mais c'est quelques pourcents. Voilà. Alors, ils sont, ces gens-là, fragiles. Et proportionnellement, on les voit plus en réanimation que ceux qui sont vaccinés.
Je voudrais qu'on évoque l'école pour terminer. Pour vous, la politique du gouvernement dans les établissements scolaires aujourd'hui, est-ce qu'elle vise encore à éviter la circulation du virus ou est-ce que cet objectif, en fait, a été oublié?
Non, c'est fini. Le virus circule. Tout le monde.
Alors pourquoi toujours ces protocoles de tests de...
Parce que c'est toujours difficile de gérer une crise comme celle-là qui va très vite. Mais justement, moi je suis urgentiste. Quand on est urgentiste, il faut savoir modifier sa stratégie très rapidement en fonction de l'évolution du patient. Il faut savoir réagir très rapidement. Là, je pense que le gouvernement reste sur des vieux schémas et que aujourd'hui cette politique de tests massifs n'a plus aucune efficacité. Le nombre de tests positifs aujourd'hui n'est pas comparable avec le nombre de tests d'il y a un an. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est le nombre de personnes hospitalisées en réanimation et non pas les 350 000 tests positifs. D'abord, ça coûte un pognon de dingue qui pourrait être utilisé à autre chose.
Merci Christophe Prudhomme. Bonne journée.
Merci.